Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Le difficile retour à la vie normale pour les sinistrés de la tempête Alex. Il y a un an, cette tempête dévastait tout sur son passage dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs cérémonies d'hommage aux 10 morts et 8 disparus de cette catastrophe ont lieu tout le week-end. Comment reconstruire après un tel drame? De nombreux sinistrés ont fait le deuil de leur maison. Nous serons à Vievola, près de Tende, dans les Alpes-Maritimes, dans un instant. Nicolas Sarkozy en séance de dédicace à Paris, deux jours après sa condamnation à un an de prison ferme dans le dossier Big Malion. L'ancien président a expliqué que les gens ne sont pas dupes. Dans ce journal également, un rassemblement ce matin devant l'hôpital Tenon à Paris où exerce le professeur et gynécologue Émile Daraï sous le coup d'une enquête pour viol. Notre rendez-vous dans l'espace avec Thomas Pesquet pour son journal de bord de la semaine. Et en cyclisme, le Paris-Roubaix avec pour la première fois de son histoire un peloton féminin sur les pavés du Nord. Le temps pour cet après-midi et pour demain, de la pluie et du vent, 15 départements des Pays de la Loire à l'ouest du bassin parisien placés en vigilance orange, pluie, inondation. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, nous allons essayer de comprendre pourquoi plusieurs centres dentaires low cost ont été fermés. Dentexia il y a 5 ans, Proxy Dentaire cet été, avec dans tous les cas des patients édentés, mutilés et parfois à la clé des vies brisées.
Jacques Monin, secret d'info, après ce journal.
France Inter.
L'arrière-pays niçois, toujours traumatisé, rend hommage aujourd'hui aux 10 morts et 8 disparus de la tempête Alex dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Il y a un an, la tempête s'est ravagée toute cette région sur les hauteurs de Nice et Menton, emportant des vies, pulvérisant des maisons, des ponts et arrachant des routes. Et parmi les nombreux hommages aux victimes tout au long du week-end, une cérémonie religieuse s'est tenue ce matin à Vievola, près de Tende, dans les Alpes-Maritimes, où une statue en mémoire de Paul Giordano, le berger du village disparu pendant la catastrophe, a été dévoilée. Sur place, Laurent Vareil, France Bleu Azur.
Il sera toujours avec nous ici dans la vallée. Ce sont les mots émus d'Armand, le frère du berger de Tende, emporté par cette terrible tempête, par ses eaux en furie, il y a tout juste un an. La statue qui le représente vient à l'instant d'être inaugurée. Elle est en hommage au berger, bien sûr, mais aussi en souvenir de toutes les victimes. 10 à l'heure actuelle, plus 8 portées disparues qui, dans quelques jours officiellement, seront comptabilisées parmi les morts de cette catastrophe. Une catastrophe bien visible encore dans ces vallées et particulièrement ici, dans la Roya. La route est en chantier, cabossée, ponctuée de feux tricolores, permettant certes aux voitures de se croiser, mais d'accéder quand même difficilement au village. Fontan, Tende, Saint-Dalmas, La Brigue, qui dans cette vallée reculée, coincée entre France et Italie, ont ce matin tourner en quelque sorte une page. Maintenant, on va pouvoir se tourner vers l'avenir, me confier l'une des 500 personnes présentes. L'évêque de Nice, qui a célébré une messe ici ce matin, a lui parlé d'un monument de vie et surtout pas de mort. Attendent Laurent Vareil, France Inter.
Comment reconstruire après un tel drame? La tempête Alex a causé d'énormes dégâts. Les travaux sont estimés à plus de 750 millions d'euros. Un an après, les vallées sont encore très touchées. Il y a plus de 450 maisons qui ont disparu ou qui sont suffisamment abîmées pour devoir être reconstruites. Les procédures d'indemnisation sont en cours. Pour le moment, seulement quelques dizaines de ces procédures ont été lancées. Et la Vésubie, comme la Roya, sont d'immenses chantiers où les ingénieurs tentent, comme ils le peuvent, de domestiquer la nature. Xavier Pelletier est le préfet à la reconstruction de ces vallées. Il est au micro de Thibault Lefebvre.
On ne reconstruira pas contre l'eau, mais avec l'eau. Ça veut dire quoi? Nous avons affaire dans ces vallées non pas à des inondations au sens classique du terme. On a affaire à des crues torrentielles, voire des laves torrentielles. Le premier des enjeux, c'est de laisser de la largeur au lit des rivières. Deuxième chose, laisser aussi des zones d'expansion pour que la rivière puisse dépenser son énergie, déposer ses matériaux. Enfin, il faut le plus possible éliminer les verrous hydrauliques. Toutes ces zones où il y a rétrécissement, où la rivière est contrainte, on ne laissera aucun habitant exposé au risque, même si, et on le sait, et tout ça est douloureux, tout ça est compliqué, se séparer de sa maison. Mais il faut expliquer aux gens, il faut prendre du temps. On prend le temps de l'explication.
En politique, ce week-end, Xavier Bertrand, pour la droite, présente à Saint-Denis ses propositions pour une société de travail, troisième volet de son projet pour la présidentielle. Et puis La République En Marche tient ses universités d'été à Avignon en présence du Premier ministre Jean Castex et Nicolas Sarkozy dédicace son livre à Promenade à la librairie Lamartine ce matin, deux jours après sa condamnation à un an de prison ferme dans le dossier Big Malion. Le président de la République a expliqué que les gens ne sont pas dupes à l'ingastal.
Et quand Nicolas Sarkozy arrive à la librairie, la queue fait déjà une centaine de mètres. Pierre-François s'est levé très tôt pour être le premier.
J'ai essayé vraiment d'être là le plus tôt possible, donc je suis parti excessivement tôt de chez moi. Donc je suis plutôt heureux d'être le premier. Du coup, je suis arrivé vers 7h50, donc ça fait 4 heures que j'attends.
Le défilé commence. Dans la foule, beaucoup de militants orphelins de Nicolas Sarkozy.
Bonjour, qui est bien le meilleur.
Sans aucun doute.
C'est sympa. Faut dire qu'avec ce qu'on voit, on n'est pas gâté.
Des lecteurs qui sont venus aussi lui souhaiter bon courage pour la suite de ces procès, après cette deuxième condamnation que Nicolas Sarkozy veut prendre avec un peu de philosophie.
Je suis confiant que la vie est un long tapis d'ennuis, de difficultés, et que le bonheur n'est jamais dans l'épreuve évitée, il est toujours dans l'épreuve surmontée. Voilà, je suis confiant de ça.
Éric Zemmour donné à 15%. Ça vous inquiète, ça vous surprend?
Là, on revient vraiment à l'essentiel, je vous en remercie.
La séance devait durer 2 heures, et il faudra sans doute jouer les prolongations.
À Paris, un rassemblement a eu lieu ce matin devant l'hôpital Tenon où exerce le professeur Émile Darail. Une enquête préliminaire pour viol a été ouverte contre le professeur Darail, gynécologue et chef de service à l'hôpital Tenon. Une dizaine d'autres plaintes sont en préparation. Les plaignantes dénoncent des examens brutaux réalisés sans consentement des patientes. L'enquête a été ouverte pour viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans. Béatrice Duguay a rencontré Jade qui avait consulté le professeur Darail, il y a 2 ans, une première consultation pour une présomption d'endométriose.
Je ne savais pas que j'allais faire un examen gynécologique. J'avais assez peur, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Et donc, à peine arrivée, il m'a rentré sans consentement un spéculum. J'avais très mal, je lui ai dit que j'avais mal. Il a commencé à introduire ses doigts et puis ça me faisait vraiment mal. Et je trouvais ça quand même assez bizarre. Je suis sortie de là, j'étais vraiment paniquée en fait. C'est-à-dire que de ce médecin qui m'avait touchée, qui me disait d'arrêter de bouger, je me sentais vraiment sale en fait, et pas respectée. Et en grandissant, je me suis rendu... En fait, cette histoire m'a toujours marquée, et je me suis rendu compte que c'était pas normal. J'ai découvert récemment les témoignages des autres victimes du professeur. C'est vrai que là, quand je vois autant de femmes réunies, je suis à la fois très attristée par tout ce qui s'est passé pour ces femmes, mais je vois aussi qu'on a un grand soutien de la part de nombreuses associations. Donc ça nous réconforte et on aimerait qu'il y ait une justice et on aimerait se faire écouter.
Jade avec Béatrice Duguay. Mobilisation aujourd'hui pour les Ouïghours avec des actions devant 2 magasins Zara à Paris pour dénoncer le travail forcé des Ouïghours et un rassemblement cet après-midi, place de la Bastille, avec des manifestants attendus de toute l'Europe. Amnesty International fera signer une pétition qui sera déposée en début de semaine prochaine à l'ambassade de Chine en France. Il s'agit toujours pour les défenseurs de la cause Ouïghour d'attirer l'attention sur l'horreur de la dictature chinoise au Xinjiang. Comme les Tibétains, les Ouïghours sont opprimés par le régime communiste, emprisonnement, travail forcé. Amnesty International parle de crimes contre l'humanité. Le régime communiste réfute toujours ces accusations de répression, malgré les témoignages et les informations dramatiques qui ne cessent de sortir de Chine. Nathanaël Charbonnier.
Il s'appelle Abdulaziz, il est en France depuis 2016, il est Ouïghour et son histoire ressemble à tant d'autres de sa communauté. Subitement, il va perdre le contact avec sa famille et notamment avec Mamat, l'un de ses frères.
C'est février 2018.
Depuis février 2018, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles.
Non.
Silence de son frère en 2018, silence de sa mère en 2019 et impossible d'avoir la moindre information des autorités chinoises.
Fin de 2018-2020, j'ai essayé de contacter avec la police locale de notre ville. Mais au lieu de me fournir l'information de mon frère, il m'a demandé « Vous êtes où? Tu peux venir ici ?»
Pour vous, c'était un piège?
Oui, je crois que c'est un piège.
Il faut dire que le piège est connu. Si Abdelaziz retourne dans son pays, il ira certainement en prison, tout comme son frère qui a été condamné à 16 ans de détention. Car au pays des Ouïghours, aucune famille n'est épargnée.
Au moins une personne dans une famille dans cette condition. Soit en détention, soit en prison, soit en rééducation.
Et si Abdelaziz s'exprime aujourd'hui malgré le danger, c'est parce qu'il veut croire encore que la mobilisation de tous pourra aboutir à la libération de ses proches et faire revenir à la raison la dictature chinoise.
Impatience, énervement et parfois violence devant les pompes des stations-service. Les pénuries d'essence persistent au Royaume-Uni et l'armée sera déployée dès lundi pour assurer les livraisons de carburant. En raison du manque de chauffeurs routiers et les achats paniques de la population, le gouvernement britannique a également indiqué qu'il autoriserait immédiatement jusqu'à 300 chauffeurs étrangers de camions-citernes à travailler au Royaume-Uni. Londres, Richard Place.
Les autorités doivent s'y résoudre. Elles ont repoussé cette décision spectaculaire évoquée depuis une semaine déjà. Elles ont espéré que le problème se règle en appelant les automobilistes au calme, en les rassurant sur les stocks suffisants. Mais rien n'y fait. Les files d'attente, les pompes vides, la colère de la population. C'est la panique qui crée cette situation après l'annonce de difficultés d'approvisionnement. 5000 visas temporaires vont être distribués à des chauffeurs étrangers et donc maintenant le recours à l'armée. Le ministre de la Santé, Sajid Javid, porte ce matin la parole gouvernementale. Tout le monde sait qu'il s'agit d'une pénurie de chauffeurs routiers. Il en manque environ 70 000 au Royaume-Uni. Dans le même temps, il en manque 400 000 en Europe. C'est un problème international, pas seulement ici. Bien sûr, il y a une concurrence pour attirer les conducteurs à travers l'Europe. Je suis confiant. Avec les changements que nous opérons, avec les visas temporaires, nous allons les attirer. Je pense que ça va marcher. Les ministres ont beau répéter sur tous les tons que cette pénurie ne se limite pas au Royaume-Uni, ce qui est vrai, les Britanniques voient bien que c'est chez eux que les conséquences sont les plus visibles. Parce qu'ici s'ajoute le Brexit. Mais d'après les ministres, ça n'a rien à voir. Londres, Richard Place, France Inter.
Et puis en bref, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, rencontrera mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite en France. Une nouvelle étape vers le rétablissement de la confiance entre les deux pays après l'annulation par l'Australie d'une commande de sous-marins français au profit d'un accord avec les États-Unis. L'événement sportif du jour en cyclisme avec la première édition féminine de l'histoire du Paris-Roubaix et en raison de la météo, la pluie, le vent et la boue devraient s'inviter dans la course. À quelques minutes du départ, on retrouve à Denain Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Et il était temps pour les coureuses d'affronter les pavés du Nord.
Ah oui, la course homme, on va le rappeler, mais elle existe depuis 1896, après 125 ans. Donc voici enfin un Paris-Roubaix féminin. Et je peux vous dire qu'il y a à la fois de l'excitation et de l'appréhension chez les 129 coureuses au départ de ce Paris-Roubaix historique. Donc excitation, hein, car elles ont bien conscience, quelque part, de faire l'histoire, de faire bouger les lignes du cyclisme international. Appréhension après, car comme pour les hommes d'ailleurs, eh bien les pavés du Nord secoue comme un marteau-piqueur et vous finissez forcément les corps meurtris avec une interrogation. Vous avez parlé de la pluie, alors pour l'instant, le ciel hésite, Frédéric. Pour l'instant, pas de pluie. En revanche, c'est une certitude, il y aura bien du vent tout au long des 116 km du parcours. Les coureuses viennent de finir la présentation sur le podium ici à Denain. Et bonne nouvelle, le public a répondu présent. On attend encore plus de spectateurs le long des 17 secteurs pavés, dont le mythique Carrefour de l'Arbre. Oui, les filles vont aussi emprunter le Carrefour de l'Arbre. Ça va être une superbe course avec, notez-le, parmi les chances françaises, Audrey Cordon-Rago, c'est sans doute la plus connue des cyclistes actuels tricolores. On citera également Aude Biani qui court pour une équipe espagnole, Movistar. Et il y a deux équipes françaises professionnelles, Arkea et FDJ.
Merci Fanny Lechevestrier. Notre rendez-vous pour quelques minutes dans l'espace, comme chaque samedi, avec Thomas Pesquet pour son journal de bord de la semaine. Dernière ligne droite pour l'astronaute, dont le retour sur Terre est prévu début novembre. Le rythme de travail ne faiblit pas, comme il vous l'a confié, Sophie Becherel.
Pas de congé, pas de jour férié, d'autant que lundi, l'astronaute endosse la tenue de commandant de l'ISS. Un poste à responsabilité qu'il occupera pendant un mois et qui consiste à veiller au bon déroulement de la mission. En cas de danger, un feu ou une dépressurisation par exemple, c'est aussi le commandant qui décide de la conduite à tenir pour l'équipage. Thomas Pesquet assurera aussi l'accueil du prochain équipage russe. Mardi, le vaisseau Soyouz arrivera avec à son bord un cosmonaute accompagné d'un réalisateur et d'une actrice venue tourner un film pendant 12 jours. Et juste avant que le cargo de SpaceX ne quitte l'ISS, leur rythme de travail était soutenu.
Oui, le rythme a été chargé. En fait, c'est toujours chargé quand un cargo de SpaceX est à bord. Bah parce que c'est notre seul moyen de redescendre sur Terre des échantillons, des équipements. Donc on a beaucoup d'expériences scientifiques qui en fait montent avec le Dragon cargo. On les réalise pendant les 30 jours de la mission et on redescend les échantillons au sol. Donc c'est très 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 intense pendant cette mission-là. Parfois on a même des équipements qui arrivent à l'extérieur du Dragon, il faut aller installer en sortie extravéhiculaire. Donc ça doit aussi se passer pendant ces 30 jours de mission. Donc tout ça c'est super intense. Et puis surtout la logistique de sortir quelques tonnes de sacs tout empaquetés en Mikado ou en Tetris au millimètre et de tout réempaqueter sans se tromper dans le moindre échantillon, parce qu'évidemment ça peut être critique, hein, ils ont tout, chacun une orientation en fonction de la gravité qu'ils vont rencontrer pendant le retour. Il y en a qui sont dans des congélateurs à différentes températures, qu'on les transporte au dernier moment, enfin c'est vraiment super compliqué. Et tout ça, ça nous occupe beaucoup. Voilà, donc là, on va peut-être souffler un tout petit peu, mais comme toujours sur l'ISS, très rapidement derrière, il y aura quelque chose d'autre.
À vous entendre, je me demande quel est le dernier moment où vous avez pu vous détendre.
Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de moments de détente. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver dans mes priorités, en gros, de quoi me relaxer. J'avais dit que je le ferais beaucoup pendant cette mission. Je l'ai très peu fait. J'ai passé un peu de temps dans la cupola à regarder la Terre, mais vraiment, je crois, deux fois 10 minutes. Je m'approchais près de la vitre. Essayer d'éliminer toute la structure de la station qu'on peut voir, la sortir de mon champ de vision, et puis avoir l'impression de voler un peu tout seul au-dessus de la Terre de nuit avec les lumières de l'Europe, c'est un peu magique, mais voilà, je l'ai fait deux fois.
Vous avez récemment démarré le déploiement du bras robotique européen ERA. Où en êtes-vous ?
On a commencé, malheureusement, ce n'est pas passé comme prévu. On pouvait contrôler le bras robotique depuis le service module, donc à l'arrière de la station, mais pas depuis MLM. Donc il y a un problème de chaîne de données, en fait, c'est tout bête, hein, c'est tout bête, rien de tout bête dans l'espace, mais c'est plutôt des problèmes de réseau. On a vu qu'a priori les systèmes marchaient bien, mais on ne peut pas vraiment le contrôler depuis le poste de contrôle qui a priori est fait pour ça dans le module MLM. Moyennant quoi, on s'est arrêté un peu au milieu du chemin, et puis on a décidé d'essayer de régler ça côté russe avant de reprendre les opérations. Donc rendez-vous... la semaine prochaine ou celle d'après.
Comparativement à vos collègues américains, russes ou japonais, vous êtes de loin le plus populaire des astronautes en ce moment dans la station. À quoi est-ce dû, selon vous ?
Alors, ce qui provoque cette popularité, selon moi, la grosse différence, très très honnêtement, hein, c'est que je bosse 100 fois plus là-dessus, en fait. Pour pas mal de mes collègues, c'est un peu un truc qu'on fait quand on a le temps. Voilà, il faut pas trop y passer de son temps libre. On prend les photos un peu clic-clac en regardant par la fenêtre. Et puis on se dit que c'est plutôt pas mal en mode automatique, etc. Moi, je m'investis énormément là-dedans. Hein. Enfin, j'y passe 2 ou 3 heures par jour sur mon temps libre. Enfin, temps libre dans la station, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais à partir de 20h, on finit le travail à 20h le soir. On reprend à 7h30 le lendemain. Entre 20h et 7h30, on fait ce qu'on veut. J'ai des collègues qui regardent des films ou qui lisent des livres. Moi, je travaille là-dessus. Enfin, ma journée de travail continue 2 heures tous les soirs pour trier les photos, essayer de trouver des choses à dire, des choses intéressantes, expliquer. Rien qu'arriver à prendre des bonnes photos, ça m'a pris des centaines et des centaines d'heures d'entraînement au sol. Et puis de week-end, de soirée, de nuit ici. Donc je pense que la grosse différence, enfin vraiment sans forfanterie, sans fausse modestie, la grosse différence c'est que je me donne 100 fois plus de mal en fait.
Mission Alpha, le journal de bord de Thomas Pesquet avec Sophie Becherel, à retrouver sur franceinter.fr. Et on termine en musique avec le choix culturel du week-end. On connaît les barytons, les ténors, on connaît moins les baryténors. Ils sont capables de chanter dans les deux registres et c'est le cas de l'américain Michael Spyres qui vient de sortir un album qui s'appelle Baryténor. Album dans lequel il passe de l'un à l'autre avec une virtuosité impressionnante, Stéphane Capron.
Quand Michael Spyres chante Rossini avec sa voix de baryton, cela donne cela. Et Mozart, avec sa voix de ténor, cela donne cela. Une palette vocale qui lui permet d'interpréter une multitude de rôles. Ce n'est que tardivement dans son parcours qu'il a découvert ce talent caché.
Quand je suis dans l'école à 20 ans, j'ai un prof pour 2 ans et lui m'a dit « Peut-être tu veux chanter le ténor partition ?» Et je sais « Non, ça c'est impossible, regarde-moi. » Et ma voix, c'est vraiment grave. Lui m'a dit « Non, elle était possible. » Après 10 ans de frustrière, je me trouvais mon route pour la ténor. Elle était vraiment un mélange de deux techniques et ça c'est ma voix. Et je pense beaucoup des autres chanteurs, c'est la même histoire de moi. Oh, Dieu.
Avec cet album, Michael Sparrez passe en revue 3 siècles de l'histoire de l'opéra et ressuscite le compositeur français Étienne-Nicolas Méhul avec un extrait de Ariodan, un opéra rarement monté.
Écoutez, écoutez ma prière.
Baryténeur de l'américain Michael Sparrez sur le label Erato, le chanteur est encore à l'affiche demain de Fidelio de Beethoven à l'Opéra Comique à Paris. La météo pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Tout le pays va connaître des conditions médiocres ce week-end avec une première vague perturbée qui va toucher progressivement d'ici ce soir les régions situées entre la Manche, le Hauts-de-France, le bassin parisien, le centre et le nord de l'Aquitaine, avec pour ce quart nord-ouest du vent fort jusqu'à 90 dans les terres, 110 sur les côtes, des pluies soutenues en particulier entre l'après-midi et demain matin sur les 5 départements des Pays de la Loire, également le Morbihan, l'Orne, l'Ille-et-Vilaine, l'Eure-et-Loire, le Val-d'Oise, les Yvelines et Paris Petite Couronne. Alors tous ceux-ci sont placés en vigilance orange, pluie, inondation, en raison des 30 à 50 litres au mètre carré attendus. Plus au sud et à l'est, excepté un risque d'orage sur la Corse, le temps est quand même plus calme. Mais ce soir, le vent du sud va nettement se renforcer, annonçant demain l'installation d'un épisode méditerranéen qui va donner du vent et des pluies marquées, parfois doublées d'orages sur toute la moitié est du pays, avec de fortes précipitations sur les Cévennes, tandis qu'une certaine accalmie va s'installer demain sur la partie nord-ouest du pays.
Jean-Michel Golinski de Météo France.